Et bien voilà, aujourd'hui sur Radio Craponne, on retrouve nos avocats comme une fois par mois. Alors nos invités, eux, sont donc Maître Emmanuel Bonnet, bonjour, qui est déjà venu d'ailleurs.
Oui, bonjour.
Qui connaît la maison. Et puis il y a Élodie Vilsèche-Sauron, bonjour.
Bonjour.
Voilà, toutes deux avocates sur le Puy-en-Velay, hein, j'imagine.
Oui, exactement.
Voilà. Alors le sujet cette semaine, en tout cas, c'est bien les ruptures du contrat de travail. Alors comme d'habitude, peut-être on va définir un petit peu, introduire le sujet comme on dit. Une rupture de contrat de travail, qu'est-ce que c'est? Quels sont les types de ruptures qu'on peut rencontrer dans le droit français? Alors, donc, Maître Bonnet.
Oui, eh bien, écoutez, vous avez plusieurs types de contrats, enfin de ruptures de contrats. Mmh. D'abord, ça dépend du contrat que vous avez. Est-ce que vous avez un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée? Vous pouvez aussi avoir des contrats saisonniers qui se rapprochent effectivement du contrat à durée déterminée. En réalité, si vous avez un contrat à durée déterminée, eh bien, il peut se terminer tout simplement par la fin de la durée pendant laquelle vous avez été embauché. Dans ces conditions, c'est une fin qui se fait naturellement.
D'accord.
Sans formalisme particulier. Vous savez que votre contrat qui devait expirer au 31 décembre 2016 s'arrêtera ce jour-là, et qui, sauf si bien sûr votre employeur vous propose soit une prorogation dans les limites et les facilités données par la loi, soit il peut aussi vous proposer un contrat à durée indéterminée. Alors après, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, vous avez également plusieurs types de ruptures. Tout simplement la démission. Le salarié qui donne sa démission pour soit rejoindre un autre emploi, soit pour des raisons autres qui lui appartiennent. Vous avez bien évidemment le licenciement qui peut intervenir pour diverses causes. Le licenciement pour faute, c'est-à-dire que votre employeur considère que vous avez commis une faute qui génère, qui justifie en tout cas la rupture du contrat de travail. Vous avez le licenciement économique. Votre entreprise connaît des difficultés économiques et ne peut plus continuer à assurer votre emploi et donc il prononce un licenciement économique. Vous avez le licenciement pour inaptitude. Vous avez des problèmes de santé. Vous n'êtes plus en capacité d'assurer votre poste de travail et le médecin du travail peut déterminer que vous êtes inapte à occuper votre poste et votre employeur sera alors amené à prononcer un licenciement pour inaptitude. Et puis enfin, vous avez la rupture du contrat de travail, la rupture conventionnelle, c'est-à-dire d'un commun accord. L'employeur comme le salarié décide de mettre fin au contrat de travail. L'avantage de cette formule, c'est que bien évidemment, ça se passe de façon en principe un petit peu plus sereine entre les parties.
À l'amiable, comme on pourrait dire.
À l'amiable. Et l'avantage, c'est que le salarié, contrairement à la démission, perçoit après cette rupture les allocations chômage.
Bon, on reviendra peut-être à travers des questions d'ailleurs un peu plus sur l'un ou l'autre. Quelque chose à rajouter, Maître Vilsèche-Sauron?
Non, je crois que ma consoeur
ça, tout ça c'est dans le droit français.
Hein. Alors tout ça c'est dans le droit français.
Il n'y a pas d'autre rupture, pas d'autre cause.
Non.
Tout ça est encadré. Non. Hein.
Tout ça est très encadré par le code du travail. Il faut être vigilant. Par exemple, pour le licenciement pour inaptitude, comme l'a dit ma consoeur, l'inaptitude, elle n'est pas décidée par l'employeur, c'est la médecine du travail. La procédure est très stricte et en fait, vous n'êtes pas licencié à raison de votre état de santé, puisque ça, c'est strictement interdit par la loi et un tel licenciement serait frappé de nullité. Mais parce que l'état de santé qui a été décrit par la médecine du travail oblige l'employeur à essayer de vous reclasser et c'est lorsqu'il ne peut pas que le reclassement est strictement impossible, qu'à ce moment-là, il est censé vous licencier à raison donc de cette inaptitude. S'il ne le fait pas, dans ce cas-là, le salarié peut rester chez lui puisque la loi prévoit même un maintien du salaire si dans le délai d'un mois, vous n'êtes pas ou licencié ou reclassé.
D'accord, oui, il y a eu plusieurs affaires hein, comme ça, de gens qui peut-être pour inaptitude, l'employeur avait peut-être dit, je pense à un film, moi, bon, là ça touche aussi un sujet un peu grave, c'était le film Philadelphia, il me semble, et je pense que peut-être que ce cas s'est présenté à vous, en France en tout cas, d'un employé qui avait le sida, d'autres maladies hein, qui sont un peu tabou, mais bon, et apparemment, je crois que son employeur voulait se débarrasser de lui, alors là on n'a pas le droit droit de dire bah, cet employé a cette maladie, je ne le veux plus chez moi, c'est pas possible.
Non, le licenciement en France qui serait fondé sur l'état de santé, mais sur d'ailleurs bien d'autres choses,
bien sûr.
La religion, sexuelle ou autre, est strictement illégitime. Nul, et dans ce cas-là, on ne peut que conseiller aux salariés de se rapprocher d'un avocat qui initiera une procédure prud'homale.
Voilà, bah comme d'habitude, hein, faites-vous un conseil à un avocat, bah surtout dans ce cas-là, je crois que c'est vraiment important parce que ça engage l'emploi. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Vilsèche-Sauron, Maître Bonnet, pour ces ruptures de contrat de travail. On peut peut-être prendre une première question, comme ça, ça nous amènera peut-être à un certain type de contrat de rupture. Alors, c'est une femme qui nous a, une auditrice qui nous a appelé, qui travaille en EHPAD, donc. Alors, elle nous dit qu'elle a un contrat depuis 8 ans.
Ça doit être un contrat à durée indéterminée, parce que 8 ans en CDD, ça me paraîtrait en contrat à durée déterminée, ça nous paraît
Si
c'est le cas, en tout cas, c'est illégal et il y a un autre problème qui va se poser à l'employeur.
Alors, apparemment, cette personne va y avoir prochainement une rupture de contrat de travail. Est-ce qu'elle peut être licenciée, elle nous demande, du jour au lendemain, finalement?
Par définition, si elle employait le mot licenciant, on lui parle de rumeur de licenciement, ça veut dire qu'elle a un contrat à durée indéterminée, puisqu'on parle de licenciement en matière de contrat à durée indéterminée. Donc le licenciement, non, il ne peut pas intervenir comme ça du jour au lendemain. Il faut un motif, comme l'a dit ma consoeur, c'est soit une faute qui peut être reprochée au salarié, mais qui doit être démontrée par l'employeur, soit un licenciement économique. Il y a des difficultés économiques dans la structure. Le reclassement ne peut pas se faire non plus. Attention, les critères économiques sont strictement encadrés par la loi et la jurisprudence. Mais non, on ne peut pas se débarrasser, si c'est sa question, d'un salarié comme ça du jour au lendemain parce que vous lui convenez plus. Il faut un motif et une procédure surtout.
Voilà. Il y a une procédure avec des délais très précis.
Donc, j'allais parler. Est-ce qu'il y a des délais,
Votre employeur vous dit, suite à une dispute ou un autre incident, va-t'en, je ne veux plus te voir, il va avoir des difficultés. Et en tout cas, il va falloir qu'il réagisse très vite pour essayer de rattraper les choses sur le plan formel et donc sur le plan de la procédure de licenciement et éviter de trop grosses difficultés, notamment si le salarié décide de saisir le conseil de prud'homme.
Voilà. Ah ben tiens, ce prud'homme, justement, on y arrive. C'était une question aussi, parce qu'on en entend parler. Il y avait des nouvelles lois qui changeaient, mais bon, faut dire que c'est... Alors, ça existe toujours. C'est quoi exactement ces prud'hommes? Et qui peut faire appel? L'employeur, l'employé, qui peut faire appel au prud'homme?
Tout le monde, à partir du moment où vous êtes salarié et que vous êtes dans les liens d'un contrat de travail, que vous soyez apprenti également, fait que vous pouvez faire appel au conseil de prud'homme dès lors que vous rencontrez un litige, que vous soyez salarié ou employeur, le conseil de prud'homme est la juridiction naturelle des relations de travail. C'est une juridiction qui n'est pas dirigée par des magistrats professionnels, mais par un collège de juges non professionnels qui sont élus et qui représentent le collège salarié, donc l'aspect salarial des relations de travail, et de l'autre côté, le collège employeur qui, lui, va être plus effectivement dans la représentation des employeurs. Sachant que malgré tout, toute décision doit être prise à la majorité et que s'il y a, une difficulté parce que finalement il n'y a pas de majorité qui se dégage dans le délibéré d'un dossier, eh bien dans ces cas-là, les juges du conseil de prud'homme vont rendre un jugement qu'on appelle un jugement de départage, c'est-à-dire qu'on va faire appelle cette fois-ci à un juge professionnel qui viendra réécouter en présence des juges non professionnels les parties et qui, elle, permettra effectivement de rendre une décision tranchée et définitive. Enfin, définitive jusqu'à un éventuel appel, bien sûr.
Alors, Maître Vilsèche, on a peut-être intérêt à faire appel à un avocat quand on va au prud'homme. Comment ça se passe? On est représenté. Est-ce qu'on peut y aller tout seul? Est-ce qu'il faut se faire représenter obligatoirement?
Alors, il faut savoir qu'un salarié peut effectivement saisir le conseil de prud'homme de lui-même.
Oui.
Il peut également être assisté par des organisations syndicales. On récupère parfois, donc, des dossiers où, effectivement, un salarié a saisi seul le conseil de prud'homme. c'est des cas difficiles. Pourquoi ? Parce que parfois la demande a été, une demande a été faite sur des chefs de demande et on se rend compte et surtout on indique à notre client qu'il y a d'autres indemnités qui pouvaient être demandées. Je ne suis pas sûre qu'une personne
sache exactement ce qu'il peut demander, ce quoi il a droit.
Qui n'a pas fait de droit et a fortiori de droit social puisse savoir la différence entre une indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse et qu'il peut en plus demander une indemnité pour non-respect, par exemple, de la procédure applicable. Dans certains cas, les deux indemnités peuvent se cumuler ou pas. Je ne suis pas sûre qu'une personne qui n'a pas fait de droit social puisse savoir que la différence, par exemple, d'indemnité entre la faute grave et la faute lourde, que selon les cas, elle va pouvoir garder le droit au bénéfice donc, de son indemnité de congé payé ou ne pas y avoir droit, même en cas de faute lourde. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Je ne peux effectivement que conseiller à l'employeur ou au salarié de s'approcher, effectivement, de prendre contact avec un professionnel du droit,
Il faut vous dire que le droit du travail est un droit qui se complexifie de plus en plus.
Oui, là aussi, d'accord.
L'actualité nous montre que, en la matière, c'est extrêmement compliqué de faire évoluer les choses dans un sens ou dans l'autre, quelles que soient les opinions que l'on ait. Et c'est surtout que c'est un droit qui est en évolution permanente.
Oui.
Même les avocats ne prennent jamais un dossier de façon sereine en se disant, voilà, la règle, c'est ça, et ça ne bouge pas. Il faut vous dire que lorsque l'avocat reçoit un dossier, enfin un client et qu'il pose des questions, la première réaction c'est d'aller voir effectivement l'état bien sûr du droit, mais bon, en même temps, ça c'est quelque chose qui évolue peut-être moins vite, mais c'est surtout l'état de la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont toutes les décisions qui montent jusqu'à la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême, et qui va donner des explications, des interprétations sur l'application de telle ou telle règle. Et on s'aperçoit que parfois, sur une jurisprudence qui a été établie depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, va générer un changement brusque, et j'allais dire non annoncé, de jurisprudence de la Cour de cassation qui va parfois être à l'inverse. Donc il est extrêmement difficile pour un non-juriste, et j'allais dire effectivement pour un non-avocat, parce qu'il faut être aussi clair, nous faisons 5 ans d'études, ça n'est pas pour rien, de connaître effectivement toute cette... toutes ces difficultés, toutes les arcanes, quelle que soit la bonne volonté de la personne que vous saisissez éventuellement pour assurer votre défense. Et ça nous arrive aussi d'avoir effectivement des dossiers qui nous parviennent avec des grosses fautes parce que effectivement la personne qui a pris la défense n'a pas été assez attentive ou en tout cas n'a pas été suffisamment informée sur le dernier état de la jurisprudence. Et on se retrouve parfois avec effectivement des dossiers qui auraient pu être pas trop mauvais et qui se retrouvent en étant petit peu plus difficiles à défendre.
On se rend compte aussi que les personnes, alors je dirais de manière très naturelle au jour d'aujourd'hui, souhaitent prendre des renseignements par l'intermédiaire donc, d'Internet. Être aussi très vigilant là-dessus.
Oui, voilà. Comme dans d'autres domaines, il y a beaucoup de choses.
Beaucoup d'erreurs. Internet n'est pas à jour de la jurisprudence à la minute. Et puis, voilà, parfois, certains commentaires qui peuvent s'avérer complètement faux et surtout très trompeurs.
Et surtout dans les blogs, parce qu'il y a tout et n'importe quoi.
Oui.
Voilà. Donc, on le redit, faites confiance à un professionnel.
Oui.
On se retrouve dans quelques instants.